chemins de traverse avec Pascal Laurière. Les chemins de traverse, votre rendez-vous avec notre pays, le Lot. Son histoire, ses hommes, ses chemins, ses traditions, ses légendes et ses sites. Le Lot, avec plus de 400 monuments et sites protégés, possède un patrimoine très riche et varié. Patrimoine s'échelonnant de l'ère des dinosaures et autres animaux d'une autre époque jusqu'à nos jours. Bonjour et bienvenue dans ce chemin de traverse à la découverte d'une des plus anciennes constructions du Lot, l'aqueduc gallo-romain de Divona. Pour ce deuxième rendez-vous, nous sommes toujours au lieu-dit de Bouquerac, au bord du Verse, en compagnie de notre guide Didier Rigal, archéologue. Avant de rejoindre le premier captage de l'aqueduc, Didier Rigal, dans ce cadre idyllique où nous nous trouvons, continue de nous conter l'histoire de ce monument gallo-romain.
Cet aqueduc, il prend sa source au pied de grande falaise qui est là. Cette grande falaise, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est l'oppidum de Mursin, c'est un village fortifié gaulois qui a de fortes chances d'être la capitale des Gaulois indépendants avant Alésia et avant Exilunum. Malheureusement, on a peu de vestiges parce qu'on a fait peu de recherches. C'est malheureusement souvent comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, on a un grand plateau qui fait 80 hectares avec un grand mur, ce qu'on appelle le Murus Gallicus, un mur gaulois, qui est décrit par César lors de la prise de Bourges pendant la guerre des Gaules et qui a été authentifié pour la première fois en France, ici même à Mursins, en 1877 par Castanier, qui était l'agent voyer du département. Donc c'est un mur, en fait, une fortification qui est faite avec des poutres de bois entrecroisées, reliées par des fiches de fer qui font 30 cm environ. On comble les caissons avec de la terre, de la pierre. Vous savez, ça donne un rempart qui résiste au bélier, qui résiste à l'incendie également, qui était quasiment imprenable. Hein. Et c'est actuellement les seuls vestiges qui sont apparents. Mais des fouilles ont été menées et des traces de métallurgie ont été découvertes, des restes d'habitation également. Mais tout ça est extrêmement fragile et malheureusement ne peut pas être laissé l'air libre.
L'oppidum de Mursins, site fortifié, établi sur le plateau encadré par les vallées de la Rose et du Verse. Cet oppidum recèle les vestiges d'une occupation gauloise antérieure à la guerre des Gaules, fin 2e, début 1er siècle avant Jésus-Christ. La place était protégée au nord par un rempart de 200 mètres de long, dont Didier Rigal vient de nous faire la description. Même si les vestiges sont peu visibles, le site est magnifique et la vue sur la vallée du Verse est splendide, et à elle seule, vaut le détour, un site à découvrir absolument.
Et alors le fait que la prise d'eau de l'aqueduc ait eu lieu ici même pour alimenter Cahors, dans la symbolique, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est difficile à argumenter d'un point de vue scientifique, mais tout de même, il y a quelque chose de très étonnant, à prendre l'eau au pied de la ville gauloise principale des Cadurques indépendants pour l'amener à la ville de Cahors qui est créée de toutes pièces à l'époque romaine. Les dernières traces d'occupation humaine sur Mursins, c'est des années 50 avant Jésus-Christ, et à Cahors, ça commence à 0, 10 à peu près, grosso modo. Mais la ville, elle est vraiment, elle prend son essor dans les années 40-50 de notre ère. Il y a vraiment cette sensation qu'on a déplacé les populations de Mursins pour Cahors et qu'on a pris dans le même temps l'eau de Mursins pour l'amener à Cahors. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement troublant.
Cette source d'eau, elle existe toujours ou elle s'est perdue?
Alors, elle existe toujours, mais elle est entièrement colmatée. Elle est colmatée. On la retrouve à 3 mètres de profondeur maintenant. Et les éboulis de pente de Mursins ont progressivement colmaté cette source, mais elle existe toujours et nous l'avons découverte avec les fouilles de l'aqueduc. Jusque-là, rien ne peut laisser présager son existence, sinon que les géologues qui travaillent avec nous maintenant nous ont fait remarquer qu'il y avait un encellement sur la falaise, un retrait, et ce retrait, généralement, c'est consécutif à une arrivée d'eau en pied de falaise et qui va saper, qui va taluter. Ça crée cet encellement, généralement. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a 2000 ans, on ignore à quoi ressemblait le niveau du Verse, où était le niveau, l'exutoire de la fontaine de Poligny, et même l'exutoire de cette fontaine.
Les Cadurques, peuple gaulois indépendant, habitant 58 ans avant Jésus-Christ, le territoire actuel du département du Lot, faisant partie intégrante de la Celtique. Le nom Cadurque s'apparenterait à la racine gauloise cado, beau, et sa forme première reconstituée, cad or ici, pourrait signifier ceux qui vivent sur les rives d'une belle rivière. Mais cet aqueduc, À quelle époque a-t-il fonctionné ?
L'aqueduc qui est construit très précocement, autour de 10-15 après Jésus-Christ, et on sait qu'il a fonctionné au moins jusqu'à la fin du 4e siècle, au début du 5e siècle. Parce que nous avons trouvé un bassin qui est alimenté par l'aqueduc, entre ici et Verse. Là, il y avait une malfaçon de l'aqueduc, il y avait trop de pente à un moment donné, donc l'eau s'échappait par la voûte, par la couverture qui n'était pas étanchéifiée. Et on a laissé ça pendant apparemment 2 siècles et demi à peu près. Et puis les gens du coin se sont décidés à bâtir un bassin pour récupérer cette eau. Ce n'était pas du vol, c'est de l'eau qui s'échappait de toute façon. Et là-dedans, on a retrouvé beaucoup de céramiques qui correspondent à des formes de pichets, de vases, uniquement des éléments qui permettaient de puiser de l'eau, qui ont été cassés, donc qui ont été abandonnés sur place, et que l'on a daté de la fin du 4e, début 5e siècle. Ça veut dire que l'aqueduc qui était en fonction encore fin 4e du 5e. Mais on sait aussi que l'aqueduc était très souvent en panne. Il y avait une vingtaine d'ouvrages d'art, de ponts aqueducs. L'aqueduc, en fait, c'est le tuyau, c'est partout, pas sous l'eau. Et ensuite, il y a des ponts aqueducs, comme Nîmes, le pont du Gard, par exemple. Et là, sur tous les ouvrages d'art que nous avons étudiés, nous avons pu vérifier qu'ils sont tous effondrés au moins une fois. Ils sont tous cassés la pipe au moins une fois. En raison de malfaçon, de défaut de conception. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, bon, la panne, on s'en rendait vite compte, mais il fallait déblayer le terrain, il fallait trouver les moyens pour monopoliser des ouvriers et des architectes et reconstruire tout ça. Et quand vous construisez un pont qui fait 20 mètres de hauteur, il y aura des questions de remettre de l'eau en service 15 jours après. Il y a les pénaux, il faut le temps que le mortier de chaux prenne, quoi. Donc ça veut dire que c'était des pannes à répétition. L'eau était coupée quasiment un jour sur deux, je crois. Il y a des erreurs de conception qui sont absolument incroyables. Vous allez voir qu'ici, les maçonneries ont été faites avec du sable et du gravier qui provient de la rivière du Lot. Et ça veut dire que la route que l'on a faite en voiture, on a dû créer des chemins carrossables à l'époque romaine pour trimballer le sable et le gravier. Ça fait quand même un sacré boulot. Et à côté de ça, à la Madeleine, sur le tracé de l'autoroute, on a trouvé un pont aqueduc qui est construit à 200 mètres à peu près de la rivière du Lot. Et là, bizarrement, les constructeurs ont utilisé du sable de carrière. C'est ce qu'on appelle du sable à renard. C'est du sable qu'on trouve, qui est mélangé de l'argile, et quand ils ont voulu faire le mortier avec, évidemment, avec l'argile, ça n'a pas pris. Et là, le pont s'est effondré très rapidement, alors qu'ils étaient juste à côté du Lot. Pourtant, ici, ils ont fait l'effort de faire 10 km avec des chariots pour transporter le sable et gravier. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples qui dénotent des malfaçons, des erreurs de conception, et qui, c'est vrai qu'ils vont bien dans le sens d'une conception extrêmement précoce. On peut imaginer qu'avec l'expérience, certaines erreurs ne devraient pas exister. Par contre, si les cadurs qui ont été les premiers à se lancer dans le bain des aqueducs dans le coin, on peut admettre que certaines erreurs ont été réalisées.
Ça s'appelle comment ici le site ? Ou moi la fontaine, elle a un nom ?
Non, on l'appelle, non, on l'a pas baptisé, tiens.
Non, vous l'avez pas baptisé.
Non. C'est le numéro de la parcelle, c'est très basique. Hein. C'est B591, je crois. Commune de Crasse et section de Mursens.
Par contre, on est au bord du Verse.
Et on est au bord du Verse, exactement. On s'approche si vous voulez.
Il y a des beaux bouts en tout cas.
Ah oui, c'est superbe. Hein. Le ruisseau, il y a sec systématiquement du mois de juin au mois d'octobre. Tous les ans. Avant, c'était tous les 20 ans. Maintenant, on tape tellement sur la nappe phréatique. Et quand vous faites descendre la nappe phréatique, eh bien, le ruisseau de Verse descend. Allez dans la vallée de la Rose, vous allez voir le niveau de la vallée de la Rose, il ne bouge pas. Hein ? Été-hiver, la vallée de la Rose, c'est toujours au même niveau. Pas de souci. Le Verse, ça n'a jamais été à cet état-là à l'époque romaine.
Du bord du Verse, où nous étions jusqu'à présent, nous passons à un petit pont et à travers champs, nous nous dirigeons, Didier Rigal et le groupe, vers la falaise au pied de l'oppidum de Mursens. Cette petite marche sur une sente à peine tracée va nous mener au premier captage de l'aqueduc de Divona.
Tout le monde est là ? On y va alors.
Alors là, on est où ?
Ah, on est au captage. First captage. Voilà, donc les derniers vestiges de l'aqueduc connus se trouvaient à environ 700-800 mètres d'ici. Donc évidemment, quand on allait chercher, on a essayé de retrouver le bout du tuyau. Donc on a mis en place plusieurs techniques. D'abord des analyses radar qui permettent de repérer les anomalies du sous-sol. Mais ici, malheureusement, ça ne marchait pas bien parce qu'il y a la nappe phréatique qui est présente partout à 2-3 mètres de profondeur. Ça veut dire que ça faisait un écho et du coup, ça donnait des résultats peu engageants. Donc l'autre technique, finalement, ça a été de faire venir un tractopelle et on lui a demandé de faire des tranchées en perpendiculaire du tracé supposé de l'aqueduc. Donc on est parti de là-bas et tous les 50 mètres, on a recoupé l'aqueduc jusqu'à ce qu'on ne le trouve plus. C'est par ici que ça se passait. Donc là, à partir de ce moment-là, on a ouvert un grand. On a fait à partir de 2003 à 2005, on a fait en plusieurs étapes. On a pu dégager ce plan avec les 10 mètres, 12 mètres de l'extrémité de l'aqueduc. Vous voyez qu'il arrive sur un complexe avec un premier bassin ici qui ressemble à un puits, un autre bassin ici. Et puis on voit ensuite qu'on a un autre bassin qui se développe par là et un autre encore ici. Et on sait maintenant que de ce côté-là, ça se poursuit encore. Donc on a toute une série de bassins qu'on prenait au départ pour l'extrémité du captage de l'aqueduc. En fait, au départ, tout ça ressemblait beaucoup à un puits artésien. Quand on retrouve la nappe, on creuse et hop, ça fait remonter l'eau. On a plusieurs captages comme ça, à Saint-Martin-de-Comminges par exemple, à Sens, on fait remonter l'eau de 2,80 m, 3,40 m successivement pour alimenter l'aqueduc. Le problème c'est qu'ici le puits il est entièrement maçonné et il est surcreusé de 90 cm par rapport au bassin que vous avez là. Donc le premier bassin lui se trouve à peu près à 60 cm sous le sol actuel, le fond du puits 90 cm au-dessous, mais avec toutes les parois et tout le fond revêtu d'enduit. Ça veut dire qu'il ne prend pas l'eau. Il ne fait pas venir l'eau. Et en plus, on a mesuré très précisément le début de l'aqueduc. Et là, il y a une contre-pente sur environ 200 mètres. Ça veut dire que l'eau, elle vient en fait de quelque part par là-bas. Et la majeure partie part vers Cahors, évidemment. Et manifestement, on en amène un petit peu ici parce qu'on a voulu réaliser un complexe ponctuel, ce qu'on appelle un nymphé, pour commémorer le captage de l'aqueduc. Et quand vous voyez le plan, en fait, vous avez plusieurs carrés imbriqués. Un premier carré ici, un deuxième carré ici, et ici on a quelque chose qui ressemble beaucoup à une ouverture, à une porte, et qui se trouve à l'est. Si certains d'entre vous ont visité l'impérial de Luzèche, il y a un fanum, un temple gaulois, qui est constitué de deux carrés imbriqués, avec toujours la porte à l'est, sur tous les temples gaulois gallo-romains. Et ici, ça ressemble quand même, et très étrangement, à un fanum. On trouverait ça dans la campagne, n'importe où ailleurs. On considère que c'est un fanum. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la divinisation de l'eau, à la sacralisation de l'eau. D'autant que cette eau avait une origine souterraine, elle venait d'on ne sait où, et on considérait, à tort ou à raison, qu'elle était particulièrement potable, particulièrement magique. De l'eau qui arrive de nulle part, c'est magique, et c'est propre, au moins dans la tête, c'est propre. L'eau qui, du ruisseau, il y a toujours des petits bestiaux qui se baladent dedans, c'est pas pareil, quoi. Hein. Et du coup, c'est assez naturel à l'époque romaine, comme à l'époque gauloise, on avait tendance à diviniser, à mettre des dieux, des déesses dans toutes les forêts, dans les cours d'eau. Et donc là, on a très certainement un petit morceau du complexe que l'on a édifié pour que le captage de l'eau soit connu de tous et en faire un lieu de culte. Quoi, hein. Quand on trouve un temple, ou quand on a affaire à des eaux curatives, miraculeuses, on trouve toujours des indices, des offrandes, soit des monnaies, soit des objets sculptés en bois ou fabriqués en bronze ou en fer, qui indiquent qu'à cet endroit-là, on considérait que la source guérissait les yeux, guérissait les jambes, guérissait ce que vous voulez. Et ici, bien sûr, rien de tout ça. On n'allait pas déposer de choses dans l'eau, ça l'aurait pollué. C'est simplement le fait de capter, de commémorer le captage qui était sacralisé en soi, et non pas la qualité miraculeuse théorique de l'eau. Voilà, voilà.
Nous sommes toujours au pied de l'oppidum de Mursins, à Bouquerac, dans la vallée du Vers. Mais les vestiges enterrés de ce temple, que vient de nous décrire Didier Rigal, sont-ils vraiment les vestiges de la première prise d'eau de l'aqueduc de Cahors?
Les derniers vestiges, c'est ici, ça va pas plus loin. L'aqueduc, vous avez, c'est le départ de 33 km. Au-delà, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus rien. Après, il peut y avoir d'autres captages. On a retrouvé tout à fait par hasard un second captage qui prend l'eau au ruisseau du Vers, tout près d'ici. On avait toutes les chances de passer à côté. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres probabilités sur le tracé, surtout au départ, de capter des résurgences qu'on aura trouvées sur la route. En théorie, je ne vois pas l'utilité, parce qu'avec l'eau qu'on avait ici et l'eau qu'on avait au ruisseau du Vers, on avait de quoi alimenter 50 aqueducs. Mais la probabilité existe pour qu'on ait d'autres captages sur le tracé, au départ. Quand l'aqueduc passe à 30 mètres au-dessus du ruisseau du Vers ou du Lot, là, ça ne va plus.
Fin de ce deuxième rendez-vous à la découverte de l'aqueduc de Cahors ou de Vers en compagnie de Didier Rigal. Suite au prochain numéro pour l'histoire et les autres vestiges de ce monument du début du 1er siècle après Jésus-Christ.